Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
La semaine dernière, les syndicats de professionnels de santé sont allés manifester. La CFDT demande à ce que les employés des établissements sociaux et médico-sociaux obtiennent aussi une augmentation de salaire. Le personnel hospitalier était le seul à l'avoir pour le moment.
Du côté des protestataires, la CGT réclame une augmentation de salaire plus importante et des embauches. On en parle avec nos invités.
Aussi dans ce magazine, les conditions de travail dans les établissements scolaires. Après l'attentat contre un enseignant dans les Yvelines, quelle réaction chez les enseignants et les parents?
Polémique aussi avec les masques DIM donnés par l'État. Ils contiendraient des substances chimiques potentiellement nocives. Qu'en pensent les professeurs et les parents d'élèves? On en parle avec le syndicat FSU et la FCPE.
Et en fin d'émission, reportage dans le monde des Légos au monastère royal de Brou, une sortie idéale en famille. Pour le moment, on commence avec l'actualité.
Bourque, en bref.
Nouvelle restriction dans l'Ain suite à la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dans l'espace public. Limitation aussi à des groupes de 6 personnes pour les bars et les restaurants notamment.
Octobre rose, c'est le mois pour promouvoir le dépistage gratuit du cancer du sein et récolter de l'argent pour la recherche.
Le cancer du sein touche une femme sur 8 environ. Docteur Balamou est coordinateur du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, le CRCDC, qui organise les dépistages de certains cancers au niveau régional. Il nous explique l'importance d'Octobre rose.
Vraiment, l'intérêt du dépistage organisé, c'est que par le biais du dépistage organisé, on a la possibilité de retrouver des cancers à un stade précoce. Et une prise en charge d'un cancer à un stade précoce permet, dans 90% des cas, d'avoir une meilleure survie. Nous adressons un courrier à toutes les femmes à partir de leurs 50 ans. Donc, juste préciser aux femmes que ces données sont des données que nous recevons de l'assurance maladie, donc CPAM, MSA, les indépendants. Et avec ce courrier qu'elles reçoivent dans leur boîte aux lettres, les femmes ont la possibilité tout simplement de prendre rendez-vous dans un cabinet de mammographie, si elles le souhaitent, ou si elles veulent en parler avec leur médecin, de prendre rendez-vous chez leur médecin. Et donc, en arrivant au cabinet de mammographie, le courrier de l'EDLC sert, donc du CRCDC, sert de bon pour une prise en charge à 100% de la mammographie de dépistage. Et la mammographie de dépistage, c'est une radiographie des seins qui est associée à une palpation aussi des seins. Donc la démarche en soi, c'est mammographie de dépistage, palpation des seins par un radiologue. Le radiologue donne à la femme un compte-rendu, donc pour dire en gros s'il ne trouve pas d'anomalie, si la mammographie est normale ou s'il y a des anomalies qui demandent un peu plus d'investigation. S'il n'y a pas d'anomalie, ces mammographies sont adressées au CRCDC, sur notre site à Bourg-en-Bresse, et là, on a un deuxième radiologue qui revient lire ces mêmes mammographies.
Voilà, ça c'est intéressant parce que j'avais, en fait, ça me conforte dans ce que j'avais cru comprendre. J'avais cru comprendre qu'une deuxième lecture était systématiquement réalisée.
Effectivement, c'est la spécificité du dépistage organisé. Et je sais que de temps en temps, quand on est sur des campagnes d'information, on nous dit que quand c'est gratuit, c'est de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité. Là, je tiens à rappeler qu'on est bien dans un dépistage gratuit, mais l'avantage de ce dépistage, c'est qu'on a une première lecture par un radiologue et une seconde lecture par un radiologue expérimenté. Et sur la dernière campagne 2018-2019, cette seconde lecture nous a permis de repérer 11 cancers qui n'ont pas été vus par des premiers lecteurs.
Des propos recueillis par notre bénévole Dominique Chapelle. Retrouvez l'interview du docteur Balamou dans sa chronique Vie pratique le 13 novembre à 7h30, 8h30 et 12h30.
Une semaine dédiée au bien manger au campus de Bourg, une initiative à la suite de la création du NAMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Bourg AMAP a été lancée début octobre. Sophie Perrin est responsable de la bibliothèque universitaire et bénévole Bourg AMAP. Elle explique le but de cette nouvelle association au sein du campus.
L'AMAP permet à des producteurs locaux, donc essentiellement des producteurs bio, de proposer des paniers de leurs produits. Donc là, on est sur des légumes, du lait, du pain et des œufs. Et de proposer ces paniers-là pour une distribution hebdomadaire qui aura lieu sur le campus tous les lundis soirs. Donc en ce sens, l'AMAP trouvait vraiment sa place au sein du campus, puisque voilà, c'est l'occasion de donner aux étudiants la possibilité de manger des produits locaux, des produits frais, des produits bio, et de leur faire découvrir éventuellement aussi des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer, mais qui s'avèrent aussi bons pour leur santé. Donc c'est vraiment une prise de conscience qu'on a envie de faire avoir aux étudiants. Et en ce sens, ils suivent bien aussi l'initiative, puisque le bureau des étudiants s'est investi également dans la MAP.
Jessica Farnier est étudiante et présidente du bureau des étudiants du campus de Bourg. Ce dernier est en lien avec les agriculteurs de Bourg AMAP et elle le dit, ce n'est pas toujours évident pour les étudiants de manger équilibré.
Les étudiants, nous les premiers, même au sein du BDE, on n'est pas là à manger bien 5 fruits et légumes par jour, mais c'est vrai que c'est important. Et les étudiants qui vivent tout seuls, ils n'ont pas vraiment conscience que ce qu'ils mangent, ça peut avoir un impact plus tard sur leur mode de vie. Et du coup, on essaye de mettre en place, en lien avec la bibliothèque universitaire, qui font on a fait un concours photo. Là, on est sur la semaine du bien manger, donc ils essayent de nous initier un peu à bien cuisiner, à faire de bonnes recettes et à vraiment apprendre à cuisiner soi-même, quoi, de pas toujours acheter tout prêt dans les supermarchés.
Pensez-vous que les engagements que vous prenez ces temps-ci par rapport au manger mieux aboutissent à une réelle prise de conscience ?
Je pense que ça va se faire sur plusieurs années. Il va y avoir d'abord la prise d'information, après on va dire on peut peut-être tenter et après ils vont s'y habituer.
Manger mieux, c'est une habitude à prendre et qui devient possible grâce à Bourg AMAP, ses agriculteurs et ses bénévoles.
Et l'initiative est ouverte à tous. Et ça se passe donc au sein du campus de Bourg-en-Bresse. Pour pouvoir suivre l'évolution de ce projet, retrouvez Bourg AMAP sur Facebook et Bourg AMAP 01 sur Instagram. Un reportage de notre bénévole Jamy Megraoui.
L'invité de Radio B.
Dimanche 18 octobre, un millier d'Indinois se sont rassemblés devant la préfecture à Bourg-en-Bresse en hommage à l'enseignant décapité dans les Yvelines. Il avait montré des caricatures du prophète Mahomet publiées par Charlie Hebdo pendant un cours sur la liberté d'expression. Le FSU, syndicat de professeurs, avait appelé à rejoindre ce rassemblement. Nicolas Jambon, vous êtes élu FSU au comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail et aussi professeur à Vona. En tant qu'enseignant, que ressentez-vous face à de tels actes?
Écoutez, beaucoup d'effroi, comme tous les collègues, toute la communauté éducative. Je pense à la fois les enseignants, mais aussi les élèves, les parents d'élèves. Cet acte horrible, je pense, doit nous inciter surtout à continuer à faire notre travail. On entend beaucoup depuis hier, depuis avant-hier, des gens incités à avoir un temps de débat, d'échange avec les élèves. Nous, on est quand même un petit peu réservé là-dessus. Je pense que la vraie priorité, c'est que les enseignants puissent faire leur travail, que les usagers aient confiance, surtout dans le travail des enseignants. Et je dois dire que dans la grande majorité des classes, les choses se passent bien au quotidien. Néanmoins, il faut quand même dire que régulièrement, il y a des situations analogues à celles de notre collègue Samuel Paty. On a régulièrement des collègues de sciences, par exemple des collègues de SVT, qui se retrouvent avec des parents ou des élèves qui remettent en question le contenu de l'enseignement, par exemple la théorie d'évolution, voilà, parce que les parents sont chrétiens évangélistes. On a régulièrement des parents témoins de Jéhovah qui remettent en question une partie de ce qui est donné, soit dans le cours de SVT, soit dans le cours de lettres, soit dans le cours d'histoire. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est être soutenu en continu par l'institution. Parce qu'il est essentiel que ce soit les enseignants, en fait, qui abordent toutes ces questions, qu'ils le fassent avec la confiance des usagers, mais on n'y arrivera pas tout seul. Et je pense qu'il y a quand même une demande forte de tous les enseignants de rappel de l'autorité dès que c'est possible. Voilà. Les valeurs de la République, elles ne sont pas négociables au quotidien dans nos classes.
Vous le dites donc, ce n'est pas une première qu'on remet en question l'enseignement que vous donnez. Vous aviez déjà alerté l'Éducation nationale à ce sujet ?
On alerte régulièrement. Pour l'instant, à la fois l'Éducation nationale et la justice n'ont pas encore fait tout le clair sur cette histoire qui s'est passée à Conflans-Sainte-Honorine. Mais est-ce que tout le soutien a été apporté aux collègues ? C'est une question qu'on pose. Est-ce que, par exemple, le collègue a reçu de la part du rectorat de Versailles la protection fonctionnelle ? Ça, c'est une question qu'on pose pour l'instant à laquelle on n'a pas de réponse.
C'est-à-dire, cette protection,
C'est une protection juridique, en fait. C'est valable pour tous les fonctionnaires, pas uniquement pour les enseignants. Dans une situation où le fonctionnaire est remis en cause dans l'exercice de ses missions, normalement, le rectorat doit apporter une protection. Ça peut être, par exemple, de payer des frais de justice si le collègue a besoin d'un avocat. Voilà. Est-ce que ça a été fait ? C'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Voilà. Parce que notre administration a trop souvent le réflexe de mettre sous le tapis les choses. Le fameux pas de vague dont on parle depuis plusieurs années, ça, on le vit souvent au quotidien. Et les enseignants ou les personnels des établissements, parce que là, le collègue s'est rendu en gendarmerie, s'est rendu à la police avec sa principale, mais voilà, est-ce que l'institution était bien derrière ? C'est quelque chose qui nous interroge.
Emmanuel Macron veut renforcer la sécurité dans les établissements scolaires, c'est sa première réaction, et notamment face à la propagande islamiste radicale en ligne. D'autres mesures sont en cours de réflexion, et de votre côté, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ?
Un soutien au quotidien. Je pense que, comme je l'ai dit, les petites entorses aux valeurs de la République au quotidien, c'est ça qui peut le plus nous mettre en difficulté. J'entends beaucoup dire il faut que la formation soit intensifiée. Je crois que la formation, généralement, elle est suffisante et les enseignants ont les compétences à la fois disciplinaires. Là, on parle d'un collègue d'histoire-géographie pour enseigner toutes ces choses-là. Et à la fois les compétences pédagogiques. Je pense que c'est surtout de soutien, en fait, au quotidien dont ils ont besoin.
Céline Vautrecht est aussi avec nous en studio. Vous êtes administratrice du conseil départemental de la FCPE, l'association des parents d'élèves. Est-ce que vous étiez au rassemblement à Bourg ?
Oui, bien entendu, je m'y suis rendue. C'était la moindre des choses que de rendre un hommage à ce professeur. C'est absolument, effectivement, effroyable ce qui s'est passé. Et nous voulions apporter notre soutien à tous les professeurs, ainsi qu'aux élèves, aux parents d'élèves concernés. Et c'était tout ce qu'on pouvait faire.
Est-ce que vous avez parfois des parents d'élèves qui viennent vous voir parce qu'ils sont en désaccord avec les enseignements donnés par les professeurs ?
Ça m'est pas arrivé personnellement, parfois plus sur la méthode que sur le contenu. Jamais été vraiment confrontée à ce genre de revendications.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, nous avions commandé une étude Kantar pour la FCPE au mois de septembre 2020, où 78% des parents interrogés sont satisfaits des valeurs que l'école apporte à leurs enfants. Donc les enseignants doivent être assurés du soutien des parents d'élèves. On tient vraiment à ce qu'ils aient le courage de continuer.
Alors une plateforme téléphonique d'écoute et de soutien psychologique est disponible pour tous les personnels de l'éducation nationale, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est joignable au 0805 500 005.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Un autre sujet du côté des professeurs, c'est le port du masque et la polémique autour des masques de la marque DIM, fournis par l'Éducation nationale à certains élèves du département et à certains professeurs. Ils contiennent du zéolite d'argent, une substance qui serait néfaste à long terme. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a récemment préconisé de donner des masques chirurgicaux aux enseignants. Nicolas Jambon, quelle est la position de la FSU face à cette polémique ?
La position, elle est tout à fait claire. C'est évidemment une controverse qui s'ajoute aux nombreuses controverses antérieures. Nous avons découvert effectivement mardi dernier un article sur le site en ligne Reporter, donc qui parlait de cette possible toxicité. Pour l'instant, on n'a pas de certitude là-dessus. Et on a surtout appris dans la semaine que mercredi, au sein du ministère du Travail, la directe Auvergne-Rhône-Alpes avait envoyé un message à tous ses agents leur demandant de ne plus porter ces masques. Or, de notre côté, au sein de l'Éducation nationale, je parlais tout à l'heure de mise sous le tapis, pas de réaction et aucune consigne pour l'instant n'a été envoyée à tous les personnels éducatifs qui ont été fournis avec ces masques-là. Nous, de notre côté, évidemment, on appelle tous les collègues à ne plus porter ces masques, à en porter d'autres, évidemment, au quotidien. Mais il y aura évidemment urgence, là on est très clair là-dessus, nos collègues, sur la base du principe de précaution, doivent être équipés dès la rentrée de masques chirurgicaux et ne plus porter ces masques DIM tant que cette controverse sur une possible toxicité n'aura pas été levée.
Céline Vautrecht de la FCPE, comment les parents d'élèves voient cette polémique sur les masques ?
Alors, nous, nos enfants sont également équipés de ce type de masque. C'est notamment ce type de masque qui sont prêtés aux élèves lorsqu'ils oublient leur masque. Ça pose effectivement un gros souci. On aimerait bien que nos enfants ne soient pas équipés de ce type de masque tant qu'il n'est pas prouvé que le zéolite soit dangereux pour eux.
Nicolas Jambon voulait ajouter quelque chose ?
Oui, justement, compléter, effectivement, je ne l'ai pas dit. Nos élèves sont a priori équipés des mêmes masques que nous. Donc là, on parle, je ne suis pas scientifique, hein, mais de nanoparticules. Donc ce sont des ions d'argent qui sont biocides, donc c'est pour ça qu'ils sont utilisés justement pour piéger les virus Covid. Mais c'est, apparemment, ces particules auraient la possibilité de passer dans le corps et donc, à l'instar des perturbateurs endocriniens, avoir un impact peut-être sur la fertilité. Donc je pense que l'effet sur les enfants peut être encore plus grand que sur nous, sachant que, je rappelle quand même, nos élèves, pour la plupart, portent le masque de 7h30 quand ils rentrent dans le car à possiblement 18h quand ils en sortent, avec juste la pause de midi. Donc là, on n'est pas sur un port occasionnel, hein, c'est un port vraiment en continu, toute la journée et possiblement 8 à 9 heures par jour.
Et toujours sur ces masques, donc ils sont obligatoires pour les élèves dans les collèges et lycées. Quelles sont les conséquences aussi sur votre travail, le fait que les élèves portent des masques ?
On a déjà des collègues arrêtés par-ci par-là pour extinction de voix, avec parfois pour certains apparition de nodules, avec d'autres conséquences, notamment au niveau des cordes vocales, du larynx. Pour les conditions d'enseignement, ce sont clairement des conditions dégradées. Les enfants n'entendent pas tout ce que disent les professeurs, ou alors quand ils l'entendent, c'est au prix du fait de vraiment forcer sur la voix. Et il y a des enfants qu'on entend très peu, voire qu'on n'entend pas du tout. Les petits timides qu'on a d'habitude du mal à faire participer, bon, il y a des voix d'élèves que j'ai du mal à distinguer, que je ne connais pas, alors qu'on est mi-octobre et qu'on a commencé début septembre. Ce sont des conditions qui sont très compliquées. Alors évidemment, il va falloir faire avec. Hein, le port du masque, il n'est pas négociable non plus. Mais ce sont des conditions très compliquées pour faire passer des choses au sein de la classe, pour transmettre des connaissances.
Il y a aussi le problème des élèves qui sont parfois malentendants. Il y avait peut-être des masques transparents qui allaient être donnés. Ça en est où ?
Alors ça, c'est un des exemples qu'on cite souvent de dysfonctionnement, clairement dysfonctionnement de notre institution, puisque ces fameux masques à fenêtre, deux choses, a priori, ne seront disponibles qu'après les vacances de la Toussaint. Donc on est quand même, on sera à 2 mois après la rentrée de septembre, ça fait quand même très long. Et d'après les informations qu'on a, le ministère a largement sous-dimensionné en fait le besoin de ces masques. C'est-à-dire devrait uniquement les réserver pour les enseignants qui ont des élèves malentendants. Or, clairement, il en faudrait beaucoup plus. Il en faudrait pour les enseignants de maternelle, les enseignants de CP, tous les professeurs des écoles qui ont à apprendre la phonologie à leurs élèves, tous ceux qui apprennent la langue. Les professeurs de langue également dans le second degré. On a des collègues eux-mêmes qui sont sourds et malentendants, qui auraient besoin que tous leurs élèves soient équipés. Et visiblement, ça risque d'être infinitésimal, ce qui va être envoyé dans les établissements. Et c'est dommage, il y a une forte demande depuis la rentrée. Un, du retard a été pris, et deux, ça ne sera pas à la hauteur des besoins réels dans les établissements.
Donc les masques sont obligatoires pour tous les professeurs, mais dans le primaire notamment, les élèves n'en portent pas. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
C'est un vrai souci pour nous. Dans le second degré, il y a eu une controverse sur l'efficacité des masques en tissu, mais le fait que et les enseignants et les élèves le portent apporte quand même une protection acceptable. Ça n'est pas du tout le cas dans le premier degré. Très clairement, les professeurs des écoles qui sont confrontés à des élèves qui n'ont pas le masque, les AVS, donc c'est notre grosse inquiétude, les AESH, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les élèves qui ont un handicap, sont un contact très rapproché avec les élèves. Alors, notre institution nous répète comme un mantra que les enfants sont très peu transmetteurs du virus et que les contaminations ont lieu principalement entre adultes. Nous, on est moins catégoriques. Les Allemands, les autorités sanitaires allemandes pensent le contraire. Donc là, pour l'instant, toute notre politique de prévention s'appuie là-dessus. Et nous, on est très inquiets que tout tourne autour de ça.
Céline Vautrecht, est-ce que la FCPE a aussi un avis sur la question de ces masques ?
Bien entendu, nous voulions que l'ouverture des écoles ne soit pas faite au détriment de la santé ni des élèves, de leurs familles ou des personnels. Donc l'importance des masques, effectivement, n'est plus à prouver. Maintenant, on regrette fortement que ces masques ne soient pas fournis gratuitement aux élèves parce que c'est un surcoût absolument énorme pour les familles.
Et donc, justement, une estimation de ce que ça peut représenter comme budget pour les familles ?
Oui, la FCPE avait évalué à peu près à 200 euros à l'année le coût des masques pour un élève. Donc ça représente une somme absolument énorme pour beaucoup de foyers.
Nicolas Jambon, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ?
Oui, tout à fait. Insister sur la contradiction totale dans le discours actuellement, puisqu'on nous dit justement que les enfants seraient très peu transmetteurs du virus, dans le même temps où les établissements, depuis la rentrée, ont mis en place des mesures sanitaires parfois draconiennes en essayant de réduire le croisement des élèves, de faire en sorte, par exemple, d'avoir des plans de classe fixes pour réduire au maximum les interactions. Donc si les élèves sont peu transmetteurs, on a envie de dire à quoi bon ? À quoi bon ? Nous, on est persuadés de la nécessité de ce qui est fait. Mais on voit quand même l'absurdité. On en parlera tout à l'heure. On a un grand malaise par rapport aux chiffres qui nous sont donnés au sein de l'Éducation nationale sur le nombre de cas positifs et le nombre de cas contacts.
Justement, Nicolas Jambon, donc, y a-t-il eu de nombreux cas de Covid dans les écoles de l'Ain ?
Alors, on avait demandé à la directrice académique assez rapidement, le 11 septembre, d'avoir un point précis sur les cas de Covid dans les différents établissements scolaires de l'Ain. On a dû attendre le 6 octobre. Donc ça, c'est un premier quand même souci pour nous. C'est-à-dire que la DASEN a mis presque un mois en fait, à nous donner des éléments. Si on regarde les données qui sont fournies par l'inspection académique, on nous parle, ça c'est les chiffres arrêtés au 2 octobre, il y en a eu quelques-uns, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments plus récents. On parle pour tous les secteurs confondus. Donc, je parle école, collège, lycée, primaire et secondaire. 189 cas positifs chez des élèves et 43 chez des personnels éducation nationale. Ce qu'on voit quand on regarde les chiffres d'inspection académique, a priori, ces chiffres ont culminé à peu près à la fin du mois de septembre, ont légèrement décru depuis. Mais, et c'est ça qui nous interroge, c'est que le nombre de cas contacts définis s'est effondré, notamment dans le premier degré. Je vais prendre un exemple, semaine du 21 au 25 septembre, 16 élèves testés positifs, un seul cas contact défini. C'est-à-dire que pour nous, le traçage n'est pas une réalité, en tout cas n'est plus une réalité du tout dans le premier degré, et pas tellement dans le secondaire. Nous, on a des remontées récentes qui nous inquiètent. Un cas chez un élève dans une section sportive d'un collège de l'Ain. Le chef d'établissement fait remonter une quinzaine de cas contacts. Retour apparemment de la caisse primaire d'assurance maladie, pas de cas contacts. Donc là, il y a un vrai souci. Est-ce qu'on fait confiance au personnel de terrain ? On est très dubitatif par rapport à ces chiffres. Est-ce que ça n'est pas complètement minimisé ? Est-ce que les choses remontent ? Et est-ce qu'il y a une vraie volonté des ARS et de l'État en général de faire un traçage. Nous, on n'en est pas persuadés, en fait. Donc, est-ce qu'il y a une volonté manifeste de l'État de absolument montrer qu'il n'y a pas de cluster dans l'éducation nationale ? C'est notre question, d'autant que les études récentes montrent que les clusters sont majoritairement donnés par le milieu scolaire et universitaire. Qu'en est-il ?
Alors, nous, on est très peu informés du nombre de cas qu'il peut y avoir dans les écoles. C'est au bon vouloir du chef d'établissement. Il s'est présenté effectivement des problèmes de traçage. On part du principe que les élèves gardent leur masque bien correctement pendant les périodes de cours. Et donc, s'ils ont été en contact avec un cas Covid à ce moment-là, ils ne sont pas cas contact. Alors qu'on sait très bien que les élèves portant le masque pendant 8 heures ont des fois tendance un petit peu à mettre un peu moins de gestes barrières autour. Donc c'est essentiellement les élèves demi-pensionnaires qui sont concernés par les cas contacts puisqu'ils n'ont pas le masque lorsqu'ils sont à la cantine. Tous les élèves des classes sont concernés. Nous ne sommes pas forcément informés en tant que parents. Lorsqu'il y a un cas contact, chaque parent devrait être libre de pouvoir faire tester son enfant ou pas et d'estimer si oui ou non son enfant a été réellement en contact avec cet élève, sachant qu'il y a des élèves qui ont des personnes fragiles à la maison. Et ça peut être vraiment très important pour eux d'être au courant. Donc ces remontées devraient être beaucoup plus transparentes pour que les parents puissent agir en conséquence.
Est-ce que vous avez des idées de choses que vous souhaiteriez pour améliorer le quotidien des élèves, des professeurs en tant que parents d'élèves ?
Alors déjà, nous, en termes de protocole, ce qu'on aimerait, c'est que du personnel soit recruté en grand nombre pour pouvoir diminuer les effectifs dans les classes. En cas de fermeture d'établissement, que les enfants puissent être pris en charge par ces personnes plutôt que les parents, puisque c'est une grande inquiétude pour les parents que d'avoir à refaire l'école à la maison. Et ensuite, que des sanitaires mobiles soient installés partout où les équipements sont en nombre insuffisant pour permettre le respect des gestes barrières. Ça fait des années que la FCPE milite pour que les sanitaires soient adaptés dans chaque établissement. Aujourd'hui, on est dans l'application concrète de ce qu'on demande. Il y a absolument des endroits où les gestes barrières sont impossibles à mettre en place, tout simplement parce que les sanitaires ne sont pas adaptés.
Nicolas Jambon, du côté de la FSU, c'est quoi les demandes que vous voudriez faire ?
De la même manière, il y a un besoin urgent de personnel, sans même parler de personnel enseignant, puisque le ministre parle beaucoup de continuité pédagogique, mais je pense que les parents comprendront que les enseignants ne peuvent pas être à la fois en cours, préparer les cours et préparer des supports en ligne, comme ça avait été le cas pendant le confinement pour les enfants qui sont absents. Ça, c'est pas possible si on n'a pas de renfort. Il y a un besoin urgent de surveillants. Nous, ça fait des mois qu'on le dit, on le dit depuis le printemps. Si on veut pouvoir mettre en place des mesures sanitaires dans l'établissement, on a besoin de personnel supplémentaire. Et il y aurait besoin également de personnel des collectivités pour la désinfection, pour le nettoyage. On est exactement dans la même situation qui était déjà tendue les années précédentes, alors que les besoins sont bien plus importants. Et je rejoins tout à fait ces dames de la FCPE sur l'aspect hygiène. Là, on se retrouve vraiment en difficulté. Et quand on discute avec les personnels de collectivité, ils nous disent « mais on n'y arrive pas ».
Eh bien, merci à vous deux, Nicolas Jambon pour la FSU et Céline Vautrecht pour la FCPE. La FCPE a mis une pétition en ligne sur son site pour demander notamment des masques et plus de personnel dans les écoles. Elle a recueilli pour le moment plus de 4000 signatures.
2 minutes, une actu.
Un peu plus de 8 milliards d'euros, c'est ce que prévoient les accords du Ségur de la Santé.
Des milliards qui serviront, selon les mots du ministère de la Santé, à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à l'attractivité de l'hôpital public. Les accords du Ségur de la Santé ont été signés en juillet dernier par les syndicats FO, CFDT et l'UNSA.
Mais comment tout a commencé ?
Alors, petit rappel, le Ségur de la Santé avait été lancé fin mai par le gouvernement à la sortie du confinement après la première vague qui a montré les limites de notre système de santé. Le Ségur, du nom nom d'une des entrées du ministère de la Santé, devait répondre à la crise du secteur médical, social, au personnel du médical et paramédical. Le personnel médical s'était plusieurs fois mobilisé pour peser sur les négociations. Ce dernier réclamait plus de moyens, des recrutements et la revalorisation des salaires. À l'époque, le gouvernement avait annoncé le versement immédiat d'une prime exceptionnelle aux soignants hospitaliers mobilisés depuis le début de l'épidémie. 1 500 euros pour les départements les plus touchés, 500 euros pour les autres, c'était le cas de l'Ain, plus la majoration des heures supplémentaires.
Et après la signature des accords ?
Ces derniers prévoient entre autres une augmentation générale de 183 euros net pour les agents hospitaliers. Ça ne concerne pas les médecins. Les secteurs médico-social, du social et du handicap ne sont pas inclus dans les accords. Ce que réclament les syndicats comme la CGT, mais aussi la CFDT Santé, qui a appelé à une journée de grève le 13 octobre. La CFDT Santé réclame l'élargissement du Ségur aux agents et salariés des établissements sociaux et services médico-sociaux. FO Santé a affirmé le 12 octobre avoir obtenu l'ouverture de négociations sur ce sujet pour les personnels rattachés à la fonction publique hospitalière. Pour ceux qui dépendent des collectivités locales, de l'État et du secteur privé, plusieurs fédérations de forces ouvrières ont été reçues par le Premier ministre. Mais FO Santé a déjà appelé l'ensemble de ses syndicats à organiser une journée de grève et de manifestation le 5 novembre si les réponses apportées par le gouvernement ne répondent pas à ces revendications. La CGT réclamait une augmentation de 300 euros net pour tous, une revendication antérieure à la crise sanitaire qui avait déjà nourri la mobilisation des hôpitaux durant toute l'année 2019. Enfin, les syndicats protestent contre les fermetures de lits. 8000 en 2 ans, selon Sud. Si le nombre de lits d'hospitalisation complète a baissé de 5,1% depuis 2013, en revanche, le nombre de places d'hospitalisation partielle a augmenté de 9,7% sur la même période, selon le ministère.
Radio B.
Les soignants étaient dans la rue la semaine dernière. La CFDT avait appelé à une mobilisation le 13 octobre pour que les mesures obtenues avec le Ségur de la Santé bénéficient à tous les personnels santé-sociaux. Alors bonjour Marie-Laure Jette-Brevet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départementale de la CFDT santé-sociaux de l'Ain. La CFDT qui a signé les accords du Ségur. Alors ces accords ont-ils été appliqués pour l'instant ?
Alors, pour l'instant, déjà quelques mesures ont été appliquées. Entre autres, par exemple, pour le compte épargne-temps, les revalorisations du financement des journées du compte épargne-temps ont enfin été mises comme dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale, puisque nous avions des paiements qui étaient en dessous des forfaits dans les autres fonctions publiques. Nous avons aussi aujourd'hui la mise en place des groupes de travail sur les professions d'aide-soignante et d'infirmière qui se mettent en place. Et puis, nous avons eu les taux de promotion, ça veut dire les personnes qui vont pouvoir changer de catégorie et de grille ont été multipliées par 2 pour 2020 et 2021. C'était une demande CFDT donc, qui a été appliquée. Et enfin, nous avons eu la pérennité de la prime de service pour 2020 et 2021 en attendant les nouvelles modalités suite à l'application de la loi de la transformation de la fonction publique sur la prime de service.
Donc dans ces accords, ce qui était un peu phare, c'était l'augmentation de 180 euros. Donc ça n'a pas encore eu lieu.
Alors, si. Alors pour l'instant, les agents ne l'ont pas encore eu sur leur fiche de paye. Ça devrait arriver en octobre. Mais donc, nous allons avoir 90 euros à partir de septembre. Donc effet rétroactif sur la paye d'octobre. C'est une mesure qui a été avancée grâce aux discussions qui ont eu lieu cet été au mois d'août, puisque normalement, ça n'aurait dû être mis en place qu'à partir du mois de janvier. Et le gouvernement a annoncé ce week-end que les 183 euros seraient versés à partir de la fin d'année. On attend encore les modalités par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les établissements suite au Covid.
Et donc ces accords, donc la CFDT les a signés, ils sont pleinement satisfaisants ?
Alors, ils ne sont pas pleinement satisfaisants, puisque nous avons eu un mouvement de grève la semaine dernière, mardi 13 octobre, qui s'appelle, pour la CFDT, nous l'avons appelé le mouvement « Et nous ». puisque aujourd'hui nous demandons la mise en place des groupes de travail spécifiques que nous avons portés tout le long du Ségur sur les professions du médico-social et social hors EHPAD, puisqu'aujourd'hui les accords du Ségur ne s'appliquent pas pour tout ce champ professionnel. Donc nous avions réussi à faire marquer que des groupes de travail spécifiques allaient devoir se mettre en place. Et donc, depuis le mois d'août, nous demandons la mise en place de ces groupes. Et bonne nouvelle, le ministère a interpellé les organisations syndicales signataires pour mettre en place des dates. Donc, nous allons pouvoir commencer le travail spécifique sur ces professions.
Et au niveau de lits supplémentaires et de recrutement, ça, par contre, il n'y a rien eu.
Alors non, pour l'instant, pour le recrutement, déjà faudrait-il qu'il y ait des professionnels en face, puisqu'aujourd'hui, les écoles ne font pas le plein. Les professionnels se sauvent au vu des conditions de travail. Et on aura certainement une difficulté, même avec des financements, pour trouver du personnel, puisque aujourd'hui, de toute façon, on n'arrive pas à recruter.
Quel retour vous avez des personnels soignants, donc après la signature de ces accords du Ségur?
Écoutez, très bon pour tout ce qui est le sanitaire et les EHPAD, puisque avoir une augmentation de 183 euros, ça n'est pas donné à tous. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu aucune négociation dans la fonction publique qui a amené des montants de revalorisation tels. Et puis, il faudra se rappeler aussi que les changements de grille des aides-soignantes, par exemple, qui vont passer de catégorie C à catégorie B, les revalorisations, les nouvelles grilles dites type A pour les infirmières vont amener aussi des revalorisations salariales. On les calcule à peu près aujourd'hui en tout compris, les 183 euros plus les revalorisations. On va pouvoir avoir des revalorisations entre 300 et 500 euros selon les catégories. De plus, on revalorise aussi les catégories sur lesquelles on a des difficultés de recrutement, entre autres, par exemple, les kinés et puis les manipulateurs radio. Donc là aussi, on espère que ça va pouvoir amener du recrutement sur les établissements sanitaires qui aujourd'hui sont en grande difficulté sur ces professions-là.
Donc vous parlez donc de revalorisation des salaires. Concernant les moyens, puisqu'on en parlait depuis longtemps, mais cette deuxième vague est actuellement en cours en France, est-ce que les soignants vont réussir à tenir le choc face à cette nouvelle vague? Marie-Laure Jette-Brevet.
Écoutez, j'ai rencontré la semaine dernière M. Beuzelin, le secrétaire général de la préfecture de l'Ain. C'est de l'inquiétude que nous lui avons fait monter. Et nous lui avons demandé vraiment de le relayer au plus haut, au niveau de l'État. Parce qu'en fait, les professionnels sont épuisés. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer cet été, puisque cet été, on a de nombreux établissements où il n'y a pas pu avoir les 3 semaines de congés annuels. Les congés sont restés à 15 jours. Les professionnels n'avaient pas eu de vacances pendant la crise du Covid. Et aujourd'hui, on nous demande... Pas sur l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Pour l'instant, sur l'hôpital de Bourg-en-Bresse, on arrive à avoir encore les vacances pour la période qui arrive. Par contre, on a d'autres établissements, centre hospitalier à Val-de-Saône, l'hôpital de Trévoux, où on demande au personnel de revenir. Alors, l'État nous annonce qu'il y aura une prime. Aujourd'hui, ce n'est pas une prime qu'on a besoin. On a quand même besoin aussi de se reposer. Il faut être conscient que augmenter la charge physique et morale des agents, c'est aussi augmenter en fait le risque peut-être d'erreur et de prise en charge inadaptée. Et aujourd'hui, on est devant cette grande difficulté, ainsi que le nombre de risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.
Qu'est-ce que vous voulez pour éviter que ça arrive ?
J'en sais rien ce que je veux aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on voit que tout ce qu'on dénonce depuis des années, On est devant le pire qui peut nous arriver. Plus de jeunes qui ont envie de s'investir dans nos métiers. Même si on revalorise financièrement, il va falloir un certain temps pour recruter et pour former des professionnels vraiment adaptés à nos professions.
Mais avec le Ségur de la Santé, Marie-Laure Jette-Brevet, vous sentez que ça va dans le bon sens?
Oui, ça ne peut aller que dans le bon sens, puisque enfin on discute de notre champ professionnel. Enfin, on va pouvoir discuter aussi du secteur social et médico-social, qui lui aussi va être en grande difficulté, parce que les mesures qu'on va appliquer aujourd'hui au Ségur de la santé, donc avec par exemple les revalorisations salariales. On sait que ça va être une fuite des autres secteurs si ces secteurs-là ne sont pas revalorisés. Aujourd'hui, une aide-soignante ou une infirmière qui travaille dans une structure associative du handicap où il n'y aura rien, ben, écoutez, si l'hôpital à côté lui fait un appel du pied en lui disant « venez travailler chez moi », elle partira à l'hôpital pour une augmentation salariale conséquente pour le même métier. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps de tout réinvestir, tout ce champ professionnel en fait, et de lui redonner les moyens pour exercer et puis ben, pour le bien des usagers en fait.
Marie-Laure Jette-Brevet, donc des mesures sont entrées en vigueur dans plusieurs métropoles, donc le couvre-feu. Pensez-vous que cette idée soit pertinente pour enrayer l'augmentation des cas ?
Alors écoutez, je ne suis pas une experte qui passe à la télévision ou je ne sais pas. Moi aujourd'hui, je demande surtout à la population d'appliquer les mesures barrières, de faire très attention au niveau des personnes à risque. Ce qui me désole, c'est des fois de voir des gens qui sont à risque dans la rue, sans masque, qui vont faire leurs courses en même temps que tout le monde. Bon, voilà. Après, à chacun d'être responsable aujourd'hui pour éviter le pire dans nos établissements et essayer d'enrayer rapidement cette épidémie. On est peut-être une région qui est moins touchée, entre guillemets, que d'autres régions et donc où on ne prend peut-être pas l'importance de cette maladie et l'importance de cette épidémie. On sait que... Un médecin infectiologue rappelait au niveau de l'hôpital qu'une pandémie, c'est 2 ans. Donc voilà, il faut se dire que pendant 2 ans, il va falloir faire attention. Je l'accepte aujourd'hui.
Marie-Laure Jette-Brevet, que pense la CFDT de la gestion de la crise par le gouvernement ?
Alors, au niveau de la santé, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut donner les moyens de soigner et surtout, il faut faire de la prévention. Donc ça veut dire qu'il faut appliquer les mesures barrières au maximum. Il faut par contre pas isoler les personnes à risque. Hein. Aujourd'hui, dans tous les établissements, on réfléchit à ne pas couper les personnes âgées, par exemple, dans les EHPAD ou dans les services du SLD, qu'on ne les coupe pas comme ce qui s'est passé en fait pendant les 2 mois de mars et avril, voire même jusqu'à fin mai, début juin, pour certains qui n'ont pas vu du tout leur famille. Aujourd'hui, on essaye de trouver des façons pour maintenir le lien social, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué.
Merci Marie-Laure Jette-Brevet. Je rappelle que vous êtes secrétaire départementale de la CFDT Santé Sociaux de l'Ain.
Merci à vous.
De son côté, la CGT n'a pas signé les accords du Ségur. Le 15 octobre, la CGT Santé Sociaux a lancé un appel à la grève, rejoint par Sud Santé, les urgentistes de l'AMUF, les infirmiers du SNPI et les collectifs Interurgence et Interbloc. Il y a eu des rassemblements à Lyon et au centre hospitalier d'Hauteville. Ils réclament des embauches massives immédiates et une revalorisation significative des salaires. Sonia Chevaucher est secrétaire générale de la CGT Santé Sociaux dans l'Ain. Elle est aussi infirmière au centre hospitalier du Haut-Bugey. Vous pouvez nous expliquer les revendications ?
Alors les revendications, donc tout le monde a beaucoup entendu parler du Ségur de la santé. La CGT ne l'a pas signé parce qu'il ne correspond pas aux revendications des personnels. Alors bien sûr, il y a une augmentation salariale hein, qui va arriver ces mois qui viennent, mais elle ne correspond pas d'ailleurs à la revendication première des hospitaliers, puisque, je tiens quand même à le rappeler, avant le Ségur, avant la crise sanitaire, pendant plus d'un an, en particulier les services d'urgence se sont beaucoup battus pour obtenir des améliorations de conditions de travail et des améliorations de salaire. Donc du coup, cette augmentation de salaire vient aussi de toutes ces luttes. Dans les EHPAD aussi, il y avait eu de nombreuses luttes avant la crise sanitaire. Donc du coup, le Ségur n'a fait que reprendre un petit peu une partie de cette revendication, puisque les organisations syndicales, pas que la CGT, demandait une augmentation de 300 euros. Là, ça sera une augmentation de 180 euros, donc la moitié, on va dire, de cette revendication. Le Ségur de la santé met à mal les conditions de travail. Rien n'est prévu pour l'amélioration urgente des conditions de travail. Et puis, le Ségur de la santé ne répond pas aux revendications des hospitaliers concernant l'augmentation de personnel. Alors bien sûr, le gouvernement annonce des chiffres. Le problème, c'est que pour avoir tout ce personnel, il faut du personnel formé. Et le personnel formé, il n'y en a pas et plus, puisque depuis la crise sanitaire, il y a des démissions en énorme quantité de personnel hospitalier, de personnel soignant. Donc, on ne va pas retrouver du personnel pour remplacer ceux qui s'en vont. Personnel soignant, et en particulier infirmiers et aides-soignants, fuient le milieu hospitalier. C'est bien de dire aux soignants, enfin aux hospitaliers, mais aux soignants en particulier, on compte sur vous, soyez forts, mais ça ne suffit pas. Il faut impérativement débloquer de l'argent, il faut impérativement amener du monde à travailler dans les hôpitaux. Et pour ça, il faut permettre de rendre attractifs les professions. Et actuellement, tel qu'on travaille à l'hôpital, eh bien, ce n'est pas attractif. Donc il faut arriver à changer cette situation et à faire en sorte que la santé ne soit plus considérée comme une marchandise comme une autre, parce que ce n'est pas une marchandise.
Comme le constate Sonia Chevauchet de la CGT, de plus en plus de soignants choisissent de quitter l'hôpital pour devenir intérim. Plus de routes pour plus de liberté et une meilleure rémunération. C'est le choix de ce jeune aide-soignant de passage dans l'Ain.
Donc je suis Maxime Chatillon, je suis aide-soignant depuis janvier 2015 et je suis surtout travaillé dans le milieu hospitalier.
Alors, pourquoi vous avez décidé de changer du milieu hospitalier à être en intérim ?
Pour ne plus avoir de contraintes vis-à-vis des établissements, pour ne plus être en conflit avec la hiérarchie. Les chefs de pôle, les cadres de santé n'accordent pas forcément leur violon. Il y a énormément de soignants qui se plaignent partout où je vais. Le problème, c'est qu'ils ont une situation familiale, des crédits, ils ont peur de l'inconnu. Ce qui fait que, bon, on va dire que les institutions médicales les tiennent un peu. Et il y a un sentiment dans le milieu soignant, c'est qu'ils ne sont pas indispensables. On leur a bien intégré ça. Et j'ai vu que les trois quarts de mes collègues sont persuadés qu'ils n'ont pas une place majeure dans les équipes de soins.
Pour obtenir une augmentation conséquente des salaires et des embauches, la CGT Santé Sociaux doit organiser une nouvelle mobilisation en fin d'année.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ben, ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Ma région en brique, la nouvelle exposition au monastère royal de Brou a ouvert ses portes le week-end dernier et nous y étions.
Des monuments dans un monument, c'est le principe de la nouvelle exposition au monastère royal de Brou. Et ils sont tous en Lego. 14 sites d'Auvergne-Rhône-Alpes sont visibles en maquette. Pierre-Gilles Giraud, administrateur au monastère, fait la visite.
Je vous conduis à un voyage dans l'espace, donc à travers les 12 départements de la région. Mais aussi un voyage dans le temps, et un voyage dans le temps qui commence il y a très longtemps, puisque la première maquette qui vous accueille, c'est la reproduction, alors non pas de l'ensemble du site évidemment, mais d'un détail, d'une paroi de la grotte Chauvet. La maquette de l'église de Brou, en quelque sorte une mise en abîme de l'église dans l'église. Alors évidemment, on peut chercher dans les détails, on trouver que les fenêtres sont un peu plus simples que les superbes remplages flamboyants de l'église de Brou, mais la façade est plutôt bien restituée et on y trouve d'ailleurs trônant le fameux Saint-André qui domine au-dessus du portail.
Comment est venu ce projet donc de mettre des maquettes Lego dans le monastère de Brou ?
Le projet est né d'une initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait lancé une grande consultation des habitants pour désigner un monument emblématique pour chacun des 12 départements qui la composent. Et ils ont eu l'idée à la suite, en effet, de transformer ce choix de 14 monuments emblématiques en maquettes et en maquettes réalisées en Lego. Donc la possibilité en fait d'allier le plus célèbre des jeux de construction à la découverte du patrimoine. Donc l'église de Brou et le monastère de Brou ayant fait partie de cette sélection, dès qu'on avait connu les résultats et l'existence de ce projet, je m'étais porté pour les rangs parce que je trouvais que ça rentre pleinement dans notre vocation de faire découvrir le patrimoine d'une manière peut-être différente à toutes les générations.
Justement, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que vous espérez de cette expo pour le monastère?
On en espère déjà attirer un public nombreux, un public familial, un public qui n'aurait peut-être pas spontanément franchi les portes du monument. Et puis surtout, de faire découvrir la richesse du patrimoine de notre région et inviter le public également, sans doute, à aller visiter tous les monuments ou les sites qui sont représentés.
Le pont de Garabit, Notre-Dame de Fourvière, le palais du facteur cheval et bien sûr le monastère royal de Brou à redécouvrir en maquette Lego, c'est jusqu'à fin mars. Et des activités pour les enfants sont aussi organisées.
Bonjour les enfants. Alors je vous présente, moi je m'appelle Sébastien, je vous présente un copain, il s'appelle Léo. C'est un léopard des neiges, alors il vient de très loin et il est venu visiter le monastère. Mais par contre, ce qu'il aimerait, Léo, c'est voir à quoi ressemble un monument. Est-ce que vous voulez relever le défi et en faire un aussi?
Un monument?
Vous avez envie d'en faire un?
Oui.
Ouais.
T'as pas entendu le monsieur?
On va suivre les flèches. Donc c'est votre panier, vous allez pouvoir construire sur votre plaque. Place à l'imagination, place à la créativité.
Bien les murs. Attention, il y a presque plus.
Ma région en brique, c'est jusqu'au 14 mars au monastère royal de Brou. Une activité à faire en famille. Visite commentée dimanche 25 octobre à 15h. Et toute la programmation est à retrouver sur le site monastère-de-brou.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, ça va être qu'on va être à la retraite.
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.